Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un sabbat profitable. En Ohio, nous vivons actuellement l'un des phénomènes météorologiques inhabituels qui surviennent dans cet état. Il y a du soleil. En ce moment même, il y a du soleil. Cela n'arrive qu'environ 3 jours par an dans le nord et de l'Ohio, c'est donc très agréable, surtout en hiver. C'est vraiment quelque chose de rare. On se sent différent, n'est-ce pas? Juste pour parler un peu du temps qu'il fait ici. On se sent différent quand on sort et qu'il y a du soleil. Il peut faire un froid glacial, et peu importe la saison, que ce soit l'été ou l'hiver, s'il fait nuageux, sombre et maussade, surtout pendant la période de transition de l'automne, où il peut faire humide et froid, on se sent différent, on perçoit les choses différemment que lorsqu'on marche dehors et qu'il y a du soleil. Il fait clair. Il fait beau. Quand il fait chaud et beau et qu'il y a du soleil, les gens font des activités dehors. J'ai du mal à me lever quand il fait maussade, froid ou qu'il pleut pour aller courir dehors. Mais s'il fait beau et lumineux et que le soleil brille, il y a quelque chose dans cela qui nous construit, qui nous donne l'énergie que nous avons. Les gens le font aussi, tous dehors. Ils vont à la plage et dans les parcs d'attractions. On fait ces choses quand il fait beau, quand le soleil brille, quand il fait clair. Il y a aussi une raison pour laquelle, si je vous dis sans donner aucune description, oh là là, il fait beau dehors, vous n'allez pas penser, oh, waouh, il doit pleuvoir, il doit faire sombre et nuageux. Non. Si je dis que c'est une belle journée, vous pensez, oh, du soleil, du beau temps, une journée idéale pour aller à la plage. D'accord. Revenez dans cette pièce. Pas dehors. Nous allons revenir dans cette pièce. Qu'est-ce qui rend cette pièce magnifique? Ici, au siège social, c'est un endroit spécial. Si vous avez vu des photos ou si vous êtes déjà venu ici, notre hall principal est une pièce magnifique. Mais qu'est-ce qui la rend magnifique? Est-ce le mobilier, les boiseries, la moquette, les lustres, l'éclairage? Ce sont tous des éléments différents de la pièce. Mais j'ose dire que si je demandais à notre équipe technique d'éteindre toutes les lumières de la pièce maintenant, s'il faisait complètement noir ici, si nous pouvions bloquer la lumière du soleil à l'extérieur, mais qu'il faisait complètement noir, comme dans une grotte, soudainement, peu importe la beauté des lustres, des boiseries, des luminaires, de la moquette, des accessoires de la pièce, tout disparaîtrait. Tout serait parti. Vous ne pourriez rien voir, car il ferait noir. Vous ne pourriez pas apprécier la beauté. Je peux donc affirmer que ce qui change le plus cette pièce, ce qui fait toute la différence, c'est le fait qu'elle soit éclairée, qu'il y ait de la lumière. Cette lumière fait ressortir tout le reste, le met en valeur, le montre davantage. Les lumières, les appliques, les spots et tout le reste sont là pour apporter de la lumière dans la pièce. Cela change ses caractéristiques. Donc, si j'ai une lumière et qu'il fait sombre, cette lumière ressort. C'est un phare. Pensez à un phare qui guide les navires. Cette lumière est d'une importance capitale. Aujourd'hui, je vais donc approfondir ce sujet. Et nous allons explorer la lumière et son lien avec notre vie spirituelle. Nous allons faire un peu de science aujourd'hui. Je n'ai pas fait de sermon scientifique depuis un certain temps, alors j'ai pensé que je pourrais m'y replonger. Mais le mot lumière apparaît environ 469 fois dans la Bible, ou exactement 469 fois, ou sous différentes formes, lumière, lumière, etc., dans environ 414 versets. Il est donc présent tout au long de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous pensez peut-être à que la lumière soit, au tout début. Je pourrais aller à l'Apocalypse, et nous le ferons, pour y examiner également certains versets. Le simple fait que je parle de lumière fait probablement penser à beaucoup d'entre vous aux versets qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à la lumière. Je suis la lumière du monde, que la lumière soit. Tous ces versets qui peuvent vous frapper dans la Bible et qui parlent de la lumière. Commençons donc par le tout début. Allons au chapitre 1 de la Genèse. Chaque fois que je vais au chapitre 1 de la Genèse, cela me rappelle que je dois peut-être faire relier ma Bible, car elle commence à se défaire. Genèse chapitre 1, commençons par le tout début, verset 1. Verset 1 de Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, il y a un grand écart, un écart temporel entre ces deux versets, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il est question d'eau ici. Ce n'est pas de la glace. C'est un mot hébreu différent. Cela signifie donc de l'eau. Il y avait de l'eau liquide. Vous pouvez imaginer une planète recouverte d'eau. Et Dieu dit, que la lumière soit. Verset 3 de toute la Bible. Dieu introduit ce concept de lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. C'est fascinant, car cela en dit long sur l'univers également. Donc, si vous avez une planète où il y a de l'eau, entièrement recouverte d'eau parce que les eaux entouraient la Terre, cela signifie plusieurs choses. Et cela prouve également toute la théorie de l'écart entre les versets 1 et 2, c'est-à-dire que s'il y avait du liquide, cela signifie qu'il y avait un soleil. Sans soleil, toute la planète, si elle contenait de l'eau, serait gelée. Cela signifie également qu'il y avait une atmosphère, car sans atmosphère, toute cette eau se serait évaporée. Vous aviez donc une planète qui était quelque chose à un moment donné, vous aviez le soleil, vous aviez la planète, puis la rébellion de Satan, qui l'a transformée en une masse aquatique, que Dieu a ensuite commencé à séparer. Il devait y avoir une atmosphère utile, sinon elle se serait évaporée. Il n'y aurait pas eu d'eau à la surface, ou elle aurait été gelée. C'est fascinant. C'est une perspective intéressante, qui prouve également que la Terre a été recréée, si vous voulez, ou reconstruite entre les versets 1 et 2. Mais cela montre aussi qu'il y avait une atmosphère intense. Car Dieu a dit, que la lumière soit. La chaleur traversait donc l'atmosphère, suffisamment pour maintenir ses eaux à l'état liquide. Mais il faisait si sombre, l'atmosphère était si épaisse, la lumière était diffusée loin du soleil, que la planète semblait sombre, car Dieu devait la séparer. Il a dû modifier la quantité de lumière diffusée à travers l'atmosphère. Il a donc créé l'atmosphère, permis l'oxygène, tout ce que nous avons et comprenons lorsque nous marchons dehors aujourd'hui, tout a dû être refait. Moins la lumière est concentrée, plus elle est diffuse, plus il fait sombre. Et, encore une fois, cela sera important plus tard. Vous et moi, nous sommes programmés pour apprécier la lumière, comme je l'ai dit dans mon introduction. Quand il fait beau dehors, c'est une belle journée, parce que vous et moi sommes attirés par la lumière. À moins que vous ne cherchiez à vous faire peur, ou que vous ne fassiez jamais rien, vous vous dites, vous savez quoi? J'ai envie de faire cela dans le noir. On a tendance à faire les choses à la lumière. Je me souviens de la chose la plus sombre que j'ai jamais faite dans ma vie, en termes de lumière, c'était en Nouvelle-Zélande, où je faisais de la spéléologie. On est donc entré dans ces grottes, on a essentiellement descendu en rappel dans ce qui est essentiellement un trou dans le sol. C'était au milieu d'un champ. On ne l'aurait jamais deviné, mais c'était au milieu du champ, et puis on est descendu à environ 20 mètres sous terre, où on a descendu en rappel. Nous sommes allés dans cette grotte, nous avons marché à travers, mais c'était un ruisseau. Nous avions tous des lampes, et toutes les lampes étaient allumées. À un certain endroit de la grotte, ils nous ont arrêtés et nous ont dit, tout le monde, repérez-vous, mettez-vous à l'aise. Éteignez vos lampes. C'est à ce moment-là que j'ai découvert une obscurité comme je n'en avais jamais connue auparavant. Et votre cerveau vous joue des tours. Parce que votre cerveau n'est pas conçu pour être dans le noir. Il commence à dérailler. Vous commencez à voir des choses. Vous commencez à percevoir de la lumière. Cela devient très intéressant lorsque cela dure longtemps. C'était en fait le même voyage. Nous avons parcouru encore 200 ou 300 mètres, et nous avons recommencé. Mais cette fois-ci, le plafond était couvert de vers luisants. Cela n'a rien à voir avec un sermon sur la lumière, sauf que c'était vraiment très beau. Mais vous avez apprécié. Je suppose que oui, d'une certaine manière. Vous appréciez la lumière, même celle de ces vers luisants, et la façon dont nos yeux s'y sont adaptés, nous permettant de voir davantage. Mais nous sommes programmés pour apprécier la lumière. Passons donc au chapitre 11 de l'Ecclésiaste. Approfondissons cela. Ecclésiaste 11. Recommençons au verset 1. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain sur les eaux, car après plusieurs jours tu le retrouveras. Donne une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Si les nuages sont pleins de pluie, ils se déversent sur la terre. Si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, il restera là où il est tombé. Les arbres ne se lèvent pas et ne bougent pas. Quand ils tombent, ils tombent. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin de l'esprit, ni comment croissent les os dans le sein de la femme enceinte, de même tu ne connais pas les œuvres de Dieu qui fait tout. Dieu est derrière tout. Le matin, sème ta semence, et le soir, ne retiens pas ta main. Car tu ne sais pas si cela ou cela réussira, ou si les deux seront également bons. Verset 7. La lumière est vraiment douce. Tout ce qui a été mis en place, tout ce dont Dieu a parlé, l'atmosphère, l'apparence et les exemples de travail acharné se résument à « La lumière est vraiment douce et agréable ». C'est le même mot que Dieu a utilisé dans la Genèse lorsqu'il a dit que la lumière était bonne. C'est une chose agréable ou une bonne chose pour les yeux de voir le soleil, car c'est ce qui rend une journée belle. Verset 8. Mais si un homme vit de nombreuses années et se réjouit de toutes, qu'il se souvienne des jours de ténèbres. Le mot ténèbres est le même que celui utilisé dans la Genèse. Car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive est vanité. Certains jours sont sombres, d'autres sont lumineux. Dans les jours d'adversité, réfléchissez, et dans les jours de bonté ou de choses positives, réjouissez-vous. C'est le cycle de la vie. Vous et moi passerons de la lumière à l'obscurité et vice-versa, et nous ferons l'expérience de différentes choses, mais cela ne devrait pas être ainsi, comme nous le verrons en découvrant qui nous sommes. Parlons donc de quelques faits concernant la lumière, car c'est une particule fascinante, ainsi que des photons et du spectre. On entend souvent dire que d'un côté il y a la création, et de l'autre la science, mais je suis un fervent partisan du mariage entre les deux. Elles sont parfaitement compatibles, car Dieu a créé la science, les lois de la physique, les lois qui régissent l'univers, ainsi que les lois et les aspects de la planète que nous commençons seulement à comprendre à l'ère moderne. Elles ne s'opposent donc pas. Quand on aborde la biologie, la science devient un peu bancale. Mais en ce qui concerne les faits fondamentaux, certains d'entre eux sont tout simplement fascinants, car la lumière visible n'est en réalité qu'une petite partie du spectre électromagnétique. Vous et moi ne voyons donc qu'une petite partie de la lumière. Certaines personnes ont une meilleure vision, mais aucun d'entre nous ne voit l'autre côté, ni la lumière infrarouge, ni l'autre côté, l'ultraviolet. Vous avez l'ultraviolet d'un côté, l'infrarouge de l'autre, et nous sommes dans ce spectre de lumière visible que vous et moi pouvons voir. Nous pouvons désormais mesurer ces choses, car nous pouvons mesurer la lumière dans le spectre. Il existe des animaux qui peuvent voir dans le spectre infrarouge et ultraviolet, et les deux. Ils ont donc un spectre de lumière visible plus étendu. Mais pour nous, et pour la plupart des discussions scientifiques, la lumière visible correspond à ce que l'œil humain peut voir. Lorsque ces petites particules rebondissent à l'arrière de nos yeux, frappent la rétine et pénètrent dans notre cerveau, il s'agit de lumière visible. Nous sommes bombardés par beaucoup d'autres particules, mais nos petits capteurs situés à l'arrière de nos yeux ne les captent pas. Cela va donc des ondes radio aux micro-ondes, en passant par les infrarouges, les rayons visibles, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. C'est là tout le spectre de la lumière. Encore une fois, nous ne nous concentrons que sur cette infime partie au milieu. La lumière est à la fois une longueur d'onde et une fréquence. C'est la vitesse à laquelle elle se déplace de haut en bas. Si vous imaginez cela comme une onde sinusoïdale qui monte et descend, si elle monte et descend très rapidement, c'est une fréquence élevée. La longueur d'onde correspond à la distance parcourue par chacune de ces ondulations, mais nous n'avons pas besoin d'approfondir ce sujet. En général, lorsque vous pensez à la lumière, vous pensez à sa température de couleur. Elle est mesurée sur l'échelle Kelvin, qui va du rouge, qui correspond à environ 1000 Kelvin, jusqu'à environ 10 000 Kelvin, qui correspond à une lumière très bleue. Et, bien sûr, le soleil se situe exactement au milieu. On obtient ainsi tout le spectre de la lumière. Je n'avais jamais pensé à cela. À l'époque où tout fonctionnait avec des ampoules à incandescence, on achetait simplement la lumière. C'était peut-être une lumière douce ou une lumière blanche, mais elles étaient pratiquement identiques. Les ampoules à incandescence ne peuvent produire qu'un spectre réduit de couleurs différentes. Maintenant, avec les LED, vous vous souvenez quand elles ont commencé à apparaître, vous les vissiez, et cela ressemblait à un cabinet chirurgical, ces premières ampoules LED, et maintenant vous pouvez choisir la température de couleur que vous voulez. Nous en sommes donc beaucoup plus conscients que nous ne l'avons probablement jamais été auparavant. Ensuite, il y a la luminosité de la lumière. La lumière visible est mesurée en lumens. Cela indique la luminosité produite par une source lumineuse, son amplitude, le nombre de photons qu'elle émet, et cela modifie la luminosité. Et puis, il y a la vitesse, environ 300 000 km à l'heure, 686 000 miles par seconde, ou kilomètres par seconde. Il se déplace beaucoup plus vite que cela. Cela signifie qu'en environ une seconde, un photon peut faire environ 7 fois et demi le tour de la Terre. C'est incroyablement rapide. Donc, pendant la seconde qu'il me faut pour dire « seconde », un photon peut faire 7 fois et demi le tour de la Terre. Pour vous et moi, c'est une vitesse que nous ne pouvons pas imaginer. Les photons sont intéressants car ils n'ont pas de poids, ce qui leur permet de se déplacer à la vitesse de la lumière. Plus les choses vont vite, plus elles deviennent lourdes, donc le fait de ne pas avoir de poids est crucial. Et ce sont souvent ce que nous appelons des particules quantiques. La mécanique quantique et les particules quantiques sont très intéressantes, et elles n'ont pas de sens pour une grande partie de notre physique et de nos modèles modernes, mais elles se comportent d'une manière différente mais cohérente, ce qui est bien sûr dû au fait que Dieu les a créées. Lorsque les choses se déplacent aussi vite, elles perçoivent l'univers très différemment de vous et moi. Le temps et la vitesse, l'espace et le temps commencent à changer. Elles ne vieilliraient pas de la même manière si elles étaient comme des personnes qui peuvent vieillir, mais cela dépasse notre expérience normale. Les photons voient donc le monde d'une manière très, très différente, s'ils pouvaient voir le monde. Vous comprenez l'analogie. Passons au chapitre 9 de Jean. Donc, un peu de science pour étayer. C'est très unique, les photons, les particules de lumière. Jean chapitre 9. Verset 1. Jean 9, 1. Regardons ici un autre type de lumière. Verset 1. En passant, Christ, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que cet homme ait péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dieu dit qu'il est amour, plusieurs aspects de qui il est. Il dit qui il est, de quoi il est fait. C'est ce qu'il est. Il est clair que Dieu dit, ou dans le cas présent, Christ, qui est aussi Dieu, je suis la lumière du monde. Et aussi, arrêtez-vous un instant et réfléchissez parfois à des versets qui ne s'appliquent pas nécessairement au sermon, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher de lire. Imaginez Dieu qui a compris qui vous étiez ou vous seriez avant la fondation du monde ou de l'univers. Voici un homme né dans un but précis. Il est né aveugle, puis il a été guéri, bien sûr, peu après dans le même passage, afin que l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu, soit manifestée. C'est un être qui planifie des choses bien au-delà de ce que vous et moi pouvons imaginer. C'est pourquoi, parfois, lorsque la vie devient difficile, que nous traversons une épreuve ou que nous sommes confrontés à un problème, il faut prendre du recul et réfléchir. Dieu peut agir sur les gens pour les amener là où il le souhaite, de sorte que quelqu'un puisse naître aveugle. Combien d'années cet homme a-t-il vécu aveugle pour arriver à ce moment? Imaginez ce qu'il a ressenti après avoir recouvré la vue. Nous devons parfois nous arrêter et nous rappeler, oh oui, c'est vrai, Dieu est responsable de tout ce qui nous entoure. Mais encore une fois, ce qui est important pour notre cheminement, c'est que Christ est lumière. Il ne diffuse pas de lumière, ce qu'il fait, car la lumière diffuse de la lumière, mais il est lumière. C'est l'un des éléments constitutifs de son être. Passons à la première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 1. Christ est donc lumière, dans Jean 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. La Bible, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Je vous écris ces choses afin que votre joie soit parfaite. C'est donc le message que nous avons entendu et que nous vous annonçons, Dieu est lumière. Nous avons donc vu que Christ est lumière, le contexte ici étant le Père, Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons, verset 6, que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, Dieu est donc les deux, et nous pouvons dire la même chose de Christ. Tous deux sont lumière, Christ est lumière, Dieu est lumière, mais ils sont aussi dans la lumière. Nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Dieu est donc lumière, Christ est lumière. Ils produisent de la lumière. On pourrait dire d'une certaine manière qu'ils s'éclairent mutuellement, et chacun marche dans leur lumière, et il nous est commandé de marcher également dans cette lumière et de ne pas avoir de ténèbres en nous. Car si nous avons des ténèbres en nous, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mes frères, la lumière est tellement importante pour ce que vous et moi sommes en tant que chrétiens, pour les choses que nous devons faire afin de produire de la lumière. Et vous verrez que c'est encore plus que cela. Passons à acte 26. Chaque fois que vous allumez une ampoule ou l'interrupteur qui allume l'ampoule, chaque fois que l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur s'allume, nous devrions réfléchir à ce qui se passe. Toutes ces particules de photons qui sortent de cet appareil produisent de la lumière. Et gardons toujours à l'esprit à quel point cela est lié à notre cheminement chrétien. Acte 26, verset 15. Et je dis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il répondit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Je vais changer quelque peu de perspective ici, si vous le permettez. Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds. Car je t'apparais pour te faire ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est donc ici la conversion de Paul. Je te délivre du peuple et des nations, vers lesquelles je t'envoie maintenant, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ministre de Jésus-Christ, notre travail consiste à aider les gens à se tourner vers la lumière. C'est ce qu'ont fait les apôtres, c'est ce que chaque ministre essaie de faire, car se tourner vers la lumière, c'est se tourner vers Christ, c'est se tourner vers Dieu. C'est devenir plus semblable à lui, plutôt que de nous faire marcher dans leur lumière. Et cela est déclaré dans ce verset, se détourner des ténèbres pour se tourner vers la lumière, et de la puissance de Satan vers Dieu. Satan, les ténèbres, Dieu, la lumière. Afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. C'est notre travail, de passer des ténèbres à la lumière. Et mes frères, c'est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas comme un interrupteur. Je peux appuyer sur l'interrupteur et soudainement la pièce est plongée dans le noir. Je peux appuyer sur cet interrupteur et soudainement la pièce est éclairée. Ce n'est pas si facile en tant que chrétien, car nous sommes de chair. Nous avons toujours le prince de la puissance de l'air qui nous influence, qui essaie de nous faire trébucher, de nous faire commettre des erreurs, de nous entraîner dans des choses sombres. Pendant ce temps, nous travaillons, nous nous efforçons et nous faisons tous les efforts possibles pour que nos actions soient réellement dans la lumière. Comment ? Psaume 119, verset 105. Je sais que c'est un passage difficile à trouver, alors psaume 119, verset 105. Comment faire ? Vous connaissez probablement ce passage, c'est un verset facile à mémoriser. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe, ou une lumière, pour mes pas, et une lumière sur mon sentier. Que fait une lampe ? Elle produit de la lumière. La parole de Dieu, la Bible, le livre d'instruction sur la façon de vivre pour les êtres humains, est une parole, la Bible, est une lampe pour mes pas, une lumière sur mon sentier. Mes frères, c'est ainsi que nous marchons dans cette voie de la vie. Nous portons cette lampe avec nous pour prendre des décisions, et cela ne signifie pas marcher sur un chemin, bien sûr que non, car en soi, physiquement, à moins que vous n'ayez quelque chose attaché à ce livre, il ne produit pas de lumière physique, non, bien sûr, nous parlons de lumière spirituelle. La parole de Dieu, ses instructions, ses enseignements, ses normes, ses statuts, ses jugements, tous les aspects de la Genèse à l'Apocalypse deviennent ce qui éclaire notre chemin. Car s'il fait sombre, imaginez que vous soyez parti la nuit. Je me souviens que dans cette grotte, lorsque nous avons éteint nos lampes, pas dans la partie où il y avait des vers luisants, mais dans la partie sombre, les gens ont été pris de panique lorsque tout est devenu noir, car on ne voyait plus sa main. Ils nous ont demandé de mettre notre main devant notre visage, et nous portions des gants car il faisait un peu froid à l'intérieur, donc on ne sentait même pas son souffle sur ses mains. Elle était à quelques centimètres de notre visage. Je me souviens la voir approcher et éloignée, et elle heurtait mon nez. Je sentais ma main heurter mon nez, et je n'aurais pas réalisé qu'elle n'était qu'à quelques centimètres de mon visage. Mais on ressent un peu de panique parce que nous ne sommes pas faits pour nous orienter dans l'obscurité totale. Que font les êtres humains? Dès qu'il fait noir, que sortez-vous? Je me souviens, c'était il y a quelques mois ici, au siège, et nous avons eu une coupure de courant pendant environ 8 heures, 7 ou 8 heures, mais c'était dans l'après-midi, et cela a duré jusqu'au soir. Je crois que le courant est revenu vers 1 heure du matin. Mais ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, la première chose que j'ai faite, alors que la nuit commençait à tomber, a été de sortir et de rassembler toutes nos lampes de poche. Nous avions plusieurs lampes de camping qui étaient chargées, je les ai toutes rechargées, et j'avais une maglite, si vous savez ce que c'est. Je pense que si je demandais à tout le monde de lever la main, tout le monde saurait de quoi je parle. Ce sont ces grosses lampes de poche en métal, qui fonctionnent avec de grosses piles D, avec lesquelles on pourrait assommer quelqu'un. Je l'ai depuis 35 ans, je crois, et elle était en train de rendre l'âme, elle avait une vieille ampoule à incandescence, et je me suis dit, je veux acheter une nouvelle lampe de poche, parce que toutes ces lampes LED sophistiquées fonctionnent très bien. Mais j'ai cherché sur Internet, et voici un conseil de pro si vous avez une maglite, vous pouvez acheter des ampoules de rechange LED, et cette lampe est désormais une torche, car elle est équipée de ces grosses piles D, et je l'ai fait. Je l'ai fait avant la panne de courant, mais je me souviens l'avoir allumée alors que la maison était plongée dans le noir, et elle n'éclairait pas seulement mon chemin, elle éclairait toute la maison. Je l'ai finalement posée sur la table de la cuisine, la laissant éclairer le plafond, aussi largement que possible, et la pièce s'était éclairée. Ce n'était pas très lumineux, mais c'était éclairé. Vous n'aviez besoin d'aucune autre lumière dans cette pièce. Mais si je l'éteignais, je ne pouvais plus me déplacer, et même dans un espace que je connaissais bien, je devais tâtonner pour trouver mon chemin dans le noir, et c'est un espace que je connais. En fait, j'étais aveugle. Mais la parole de Dieu fait la même chose que cette lampe de poche. Elle éclaire le chemin que nous sommes censés suivre. Elle nous guide sur les sentiers qui nous permettent de faire ce que nous devons faire. Passons à Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 12. Matthieu 5, 12. Bon, nous avons vu que Christ est lumière, que Dieu est lumière, que la Bible est ce qui produit la lumière pour guider nos pas. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous, moi, nous tous, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je n'ai pas caché ma lampe de poche sous le canapé. Elle aurait produit la même quantité de lumière, mais elle n'aurait pas éclairé toute la maison. Verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, c'est ainsi que la lumière brille, et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Mes frères, vous et moi sommes également appelés lumière. Bien sûr que nous le sommes, car nous essayons de vivre de cette manière. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. D'où pensons-nous que Dieu tire sa lumière? D'où vient-elle? De l'intérieur de lui, grâce au Saint-Esprit qui produit, distribue et construit toute cette analogie de la lumière. Nous sommes la lumière de ce monde, tout comme Christ a dit qu'il l'était lorsqu'il était ici, et il l'a formulé avec soin, car il était la lumière du monde, mais il n'est plus ici maintenant, donc ce devoir nous incombe, à vous et moi, d'être des lumières. C'est notre travail maintenant. Comment le faisons-nous? Par nos bonnes œuvres. Et quel est le résultat? Cela glorifie votre Père, notre Père qui est aux cieux. Le christianisme revient toujours à savoir quoi faire, puis à choisir de le faire ou non. Et on pourrait dire le contraire, savoir ce qu'il ne faut pas faire, et choisir de ne pas le faire. Lorsque nous choisissons de faire ce que Dieu nous demande de faire, ou d'éviter ce qu'il ne veut pas que nous fassions, les ténèbres, et de faire ce que nous devons faire, la lumière, nous libérons nous-mêmes cette lumière, nous la diffusons, nous la faisons briller sur les hommes. Il ne s'agit donc pas de savoir si vous ou moi sommes des lumières, c'est le message de la Bible. La question est de savoir quel type de lumière, quelle pureté de lumière, quelle efficacité de lumière, quelle luminosité de lumière. Dans quelle mesure notre lumière est-elle placée sur la colline, au sommet de la montagne, sur le chandelier, ou dans quelle mesure notre lumière est-elle cachée sous le boisseau, sous le canapé, sous l'oreiller, de sorte qu'elle ne brille pas? Donc, dans la suite de ce message, nous allons examiner différentes façons d'être de meilleures lumières, des lumières spirituelles plus efficaces, en examinant comment la lumière elle-même fonctionne. J'ai dit que nous allions aborder la science. Il ne s'agissait pas seulement d'un peu de lumière, et il y a une raison pour laquelle j'explique la lumière, car nous allons l'examiner un peu plus en détail, puis voir les incroyables analogies, comparaisons et similitudes, si vous voulez, entre la lumière physique, si vous pouvez l'appeler ainsi, c'est quantique, mais disons la lumière physique et la lumière spirituelle. Tout d'abord, la lumière existe sous deux formes. C'est une onde et une particule. Peu de particules, ou de substances diverses, existent sous deux formes. C'est donc une onde et une particule. Un photon est une particule, et la lumière se déplace sous forme d'onde. Rappelez-vous que la fréquence de l'onde lumineuse, c'est une onde, mais c'est aussi une particule. Dans certaines expériences, et c'est là que la lumière devient vraiment étrange, comme les particules quantiques en général, elles se propagent sous forme d'onde, dans certaines expériences, dans d'autres, elle agit comme des paquets d'énergie individuelle, comme ceux qui frappent notre œil. Nous ne serions pas capables de voir s'il n'y avait pas les photons qui frappent nos yeux, puis qui sont traduits en réalité que vous et moi voyons. La physique moderne traite les particules quantiques différemment, car elles peuvent se présenter sous l'une ou l'autre forme, selon la façon dont on les observe. Ainsi, La façon dont nous observons les particules, les ondes ou la lumière modifie leur nature, et c'est là que la physique quantique devient vraiment intéressante, car l'observation modifie leur nature. Nous ne comprenons toujours pas très bien pourquoi, et il est étonnant de voir à quel point l'humanité est avancée et le chemin parcouru, alors qu'il existe encore des choses simples comme la lumière, qui est fondamentale pour vous et moi dans nos activités quotidiennes, et que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Tout comme la lumière, nous devons donc exister dans deux états, n'est-ce pas? Il y a deux états dans lesquels vous et moi vivons. Nous vivons notre vie, nous assumons nos responsabilités, nous attendons Jésus-Christ, nous faisons toutes ces choses, nous réparons nos toits, nos voitures, nous prenons soin de nos enfants, nous planifions l'avenir et tout ce que nous avons à faire, et puis, à l'inverse, ou pas à l'inverse, mais presque en complément de cela, même si parfois cela peut sembler être à l'opposé, mais cela doit être les deux. Rappelez-vous, nous sommes des lumières, nous existons dans deux états. Nous faisons donc tout ce que nous devons faire, tout ce qui apporte plus de lumière au monde, et nous attendons également Jésus-Christ à tout moment. Nous devons faire les deux. C'est une position étrange à adopter. D'un côté, nous savons que Christ peut revenir et que Dieu peut revenir à tout moment. Nous pouvons voir Dieu établir son royaume en préparation du millénium et laisser Christ régner sur tout ce que nous avons appris. D'un autre côté, nous attendons cela sans jamais baisser les bras, sans jamais nous laisser aller à la complaisance face à ce que Dieu nous donne par l'intermédiaire de son apôtre. Nous sommes enthousiastes non seulement pour le quoi, car c'est facile, mais aussi pour le quand, et nous ne baissons pas les bras. Mais en même temps, de l'autre côté de la même médaille, vous et moi devons faire réparer notre voiture, nos dents, notre toit, toutes ces choses. Nous devons vivre dans ce qui semble être presque une dichotomie entre deux positions différentes. Mais bien sûr que nous le faisons, nous sommes la lumière. Nous devons exister dans deux états. Éphésiens chapitre 5. Livre des Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5, et nous commencerons au verset 1. Nous allons établir le contexte ici. Verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice à Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Mais que l'impudicité, et toute espèce d'impureté, et la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, comme il convient à des saints. Ni les propos obscènes, ni les plaisanteries, ni les badineries, qui sont inconvenantes, mais plutôt des actions de grâce. C'est ce que nous devons faire, être reconnaissants, éprouver de la gratitude, être reconnaissants. Verset 5. Car vous savez bien que nul fornicateur, ou impur, ou cupide, qui est un idolâtre, si vous convoitez quelque chose, cela signifie que vous en faites votre idole, peu importe ce que c'est. Il n'est pas nécessaire que ce soit une croix ou une image de Jésus. Tout ce qui retient notre attention nous transforme en idolâtre si nous convoitions cette chose. Vous pouvez apprécier les choses, mais elles ne doivent pas être au centre, c'est Dieu qui doit l'être. Continuons, est un idolâtre, si vous êtes l'une de ces personnes, n'a pas d'héritage dans le royaume de Dieu et du Christ. Verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Ne soyez donc pas leurs complices. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Le monde est rempli de ténèbres. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Nous sommes donc la lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit est dans toute bonté, justice et vérité. Éprouvez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ce verset est riche en enseignements. Parce que vous et moi sommes dans le monde, non pas du monde, mais dans le monde, nous interagissons quotidiennement avec les gens. Nous devons travailler avec des gens dans notre travail, dans nos écoles, dans nos interactions. Il y a beaucoup de gens qui ne vous veulent aucun mal, qui font simplement leur travail, qui interagissent simplement avec vous, qui sont, je suppose, neutres. Et c'est généralement le cas à droite et à gauche, et dans tous les pays du monde, mais je le vois davantage ici en Amérique, simplement en raison de la nature même de ce pays. Et on en arrive à des extrêmes, mais c'est le cas dans tous les pays. Les plus bruyants, les plus virulents, les plus problématiques sur le spectre politique sont les gens d'extrême gauche et ceux d'extrême droite. La plupart des gens se situent au milieu et sont un peu plus équilibrés. Peu importe qu'ils penchent à gauche ou à droite, ce sont les deux extrêmes qui comptent. La plupart de ces gens du milieu, pour notre comparaison, sont ceux avec lesquels vous allez interagir au quotidien. Ils ne vont pas vous donner de la cocaïne. Non, ils vont vous donner un ticket de caisse dans une épicerie. Ce ne sont pas eux qui essaient de tuer, d'assassiner et de blesser. Ce sont simplement ceux qui vous disent bonjour, qui vous saluent et qui n'ont pas vraiment d'opinion, ou ceux qui travaillent avec vous. Ce ne sont pas eux qui vont vous poignarder dans le dos ou sortir se saouler. La plupart des gens se situent dans cette zone intermédiaire. C'est pourquoi vous et moi sommes dans le monde, mais pas du monde. C'est pourquoi nous sommes des lumières, parce que nous ne sommes pas des lumières à l'extrême. Et la comparaison spirituelle est essentiellement la suivante. D'un côté, vous avez Dieu, la lumière pure, rien que la lumière. De l'autre côté, vous avez Satan, les ténèbres pures, aucune lumière. Et les êtres humains se trouvent quelque part entre les deux. La plupart d'entre eux se trouvent dans cet espace intermédiaire étrange. Ils n'ont pas la lumière parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu de la même manière, mais ils ne sont pas non plus dans les ténèbres noires. Il y a des gens qui le sont. Ce sont ceux dont vous devez vous éloigner, ceux que vous ne devez pas laisser vous entraîner vers des choses qui vous ramèneraient là où je retournerai dans les ténèbres. Mais ce qui est étonnant, c'est ce que fait la lumière. La lumière fait disparaître les ténèbres. Et c'est là que, si vous continuez à montrer votre lumière, ceux qui recherchent les ténèbres, qui vont vers les ténèbres, qui veulent les ténèbres, ne voudront pas être près de vous parce que votre lumière éclaire ce qu'ils font. Continuons au verset 12, dans le même passage, Éphésiens 5, car il est honteux de parler de ces choses qui se font en secret. Mais toutes les choses qui sont réprouvées sont manifestées par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Vous et moi allons amener les gens à voir leurs actions. Et si ces actions sont sombres, alors ils ne voudront pas vous avoir près d'eux ou essaieront de vous attirer vers eux, car cela rend les gens plus à l'aise si les autres approuvent ce qu'ils font, surtout si ces personnes font passer leurs actions pour mauvaises. Verset 14. C'est pourquoi il dit « Réveillez-vous, vous qui dormez, levez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. » Mes frères, la lumière est partout dans la Bible. Veillez donc à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Christ nous enlève de cet endroit où vous et moi marchions dans les ténèbres. C'est ce que nous faisions. Nous étions ignorants. C'est ainsi que fonctionne le monde. Il est facile pour nous, surtout si vous avez été élevé dans l'Église ou si vous entendez cela depuis des années, il est facile pour nous de regarder et de voir le monde comme noir. C'est naïf, car le monde est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est les deux à la fois. Les gens peuvent faire de bonnes choses, humainement parlant. Ils peuvent faire le mal, car c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est les deux, et nous devons aller vers eux et être une lumière pour ceux qui ne sont pas complètement dans les ténèbres, briller sur eux, leur montrer l'exemple que vous et moi sommes, car nous sommes des lumières, puis nous éloigner de ceux qui voudraient nous entraîner ou nous ramener dans les ténèbres. Encore une fois, ce n'était que le premier point. La lumière existe sous deux formes, et en tant que lumière, nous devons faire de même. Autre chose, les photons se déplacent en ligne droite. Dans la vie quotidienne, la lumière se déplace en ligne droite. Vous pouvez courber l'espace-temps avec des objets vraiment très lourds comme les étoiles et certaines galaxies. Cela courbera l'espace-temps. Mais techniquement, la lumière suit toujours cette ligne droite, mais cette ligne a simplement été courbée. Mais à l'échelle humaine, lorsque nous ne travaillons pas avec des étoiles ou des galaxies, pour ce que vous et moi faisons régulièrement, la lumière se déplace en ligne droite à travers cette pièce lorsque ces photons sortent des lustres. Elle rebondit sur le sol et sur toutes les surfaces, mais elle continue à se déplacer en ligne droite. Vous pouvez imaginer une balle en caoutchouc. Si vous aviez une petite pièce et que vous lanciez cette balle en caoutchouc, onomatopée, et elle irait partout. C'est ce que fait la lumière, et c'est ce que nous sommes censés faire aussi, n'est-ce pas? Matthieu, chapitre 7. Certains de ces concepts sont très simples, mais j'espère qu'en les reliant à la lumière, vous ne regarderez plus jamais cette lampe de la même façon. Vous la regarderez toujours différemment, excusez-moi. Vous la verrez dans un contexte différent. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous l'homme qui, si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre? Bien sûr que non. Ou s'il vous demande un poisson, lui donnerez-vous une pierre? Si donc vous, qui êtes mauvais, c'est assez intense à entendre, n'est-ce pas? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ce qu'on appelle souvent la règle d'or. Car c'est là toute la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, étroite, car large est la porte et spacieux, et on peut dire sinueux, et le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent. Il est facile d'aller vers la porte large. Il est facile d'atteindre la grande ouverture. Il est facile de suivre le chemin sinueux que tout le monde emprunte. Verset 14. Car étroite est la porte, resserrée est la voie qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui la trouvent, la parcourent. Non, peu nombreux sont ceux qui la trouvent, parce que nous la cherchons. Nous suivons cette ligne droite parce que nous avons la lumière de la Bible qui nous enseigne comment marcher sur le chemin qui est droit. Il est facile de se laisser distraire. Pensez à quand vous marchez sur un chemin. Mon fils faisait cela récemment lorsque nous allions nous promener, il essayait de marcher sur le bord du trottoir. Le bord du trottoir mesure quoi? Peut-être 15 cm de large. Il essayait de marcher sur le bord du trottoir, et lorsqu'il était concentré, lorsqu'il y arrivait bien, je pouvais lui dire quelque chose, mais il ne m'entendait pas parce qu'il était concentré sur le bord du trottoir. Il veut éviter de tomber du trottoir. Tout comme vous et moi, lorsque nous marchons sur le chemin chrétien, lorsque nous sommes concentrés sur ce chemin droit, sur ce que nous faisons pas à pas, en cherchant la ville lointaine, En cherchant le royaume de Dieu, il est difficile d'être distrait, n'est-ce pas? Plus difficile. Mais lorsque nous perdons cette concentration, lorsque nous nous permettons de dévier un peu plus, de laisser le monde, ses intérêts, ses activités et toutes ces choses envahir notre esprit, bien sûr, nous sommes équilibrés dans ce que nous faisons, mais lorsqu'elles envahissent notre esprit, il devient plus facile pour nous d'être distraits, de dévier, d'arrêter de marcher en ligne droite. Nous ne pouvons pas laisser le monde nous concentrer sur le chemin large. C'est un chemin étroit, un chemin droit. Nous devons marcher sur ce trottoir, si vous voulez, de notre vie spirituelle et rester tellement concentrés que les choses extérieures ne nous bombardent pas et ne nous en détournent pas. Bon, autre point ici. Les photons se comportent différemment selon ce avec quoi ils entrent en contact. Je vais le répéter. Les photons se comportent différemment selon ce avec quoi ils entrent en contact. En gros, lorsqu'un photon frappe une surface, il fait l'une des trois choses suivantes. Il se reflète, pensez à un miroir, il rebondit, vous voyez votre reflet, donc il y a des photons qui rebondissent sur ce miroir. Il est transmis, donc il traverse une substance, pensez à une fenêtre, c'est essentiellement ce que fait une fenêtre, où il est absorbé. En général, cela se traduit par le sous-produit de cette absorption et la chaleur. Un jour d'été, si vous vous approchez d'une voiture blanche, beaucoup de ces photons seront réfléchis par cette surface blanche, ou si vous vous approchez d'une voiture noire, posez rapidement votre main dessus, puis retirez-la rapidement, car elle est chaude. Cette surface noire, ces surfaces sombres absorbent ces photons. Ce sont des questions que vous voulez poser à Dieu. A-t-il créé l'univers avec ses propriétés, puis tiré ses analogies pour les mettre dans la Bible sur la façon dont la lumière interagit avec les surfaces, cette noirceur, cette obscurité? Parce que ce n'est pas le violet qui absorbe toute la lumière. Ce n'est pas le blanc qui absorbe toute la lumière. Le blanc est celui qui réfléchit le plus. Non, c'est l'obscurité, la noirceur, qui absorbe la lumière, en lui ôtant essentiellement son pouvoir d'illuminer. Vous allez rencontrer des gens qui reflètent vos photons, si vous voulez, parce que votre lumière, vous la projetez de trois façons différentes. Certains la reflètent directement. L'exemple le plus simple est celui des gens de Dieu. Ces gens autour de vous qui produisent également de la lumière, qui essaient d'être blancs, qui essaient d'être purs, qui essaient également d'être des lumières, peuvent la refléter directement sur vous. Cela devient une boucle de rétroaction positive où vous faites tous cela. Dans n'importe quelle congrégation, n'importe où dans le monde, les gens sont enthousiastes à l'idée d'aller aux offices parce que vous êtes dans un environnement où toute la lumière se reflète dans les deux sens. Il y en a qui la transmettent. On peut dire que c'est le monde qui passe en quelque sorte à travers eux, la plupart des gens. Ils peuvent recevoir un petit reflet en retour. Ils peuvent vous demander pourquoi vous avez cet espoir, et vous devez leur répondre, mais la plupart du temps, cela passe à travers eux. C'est un peu comme si cela se perdait dans la sauce. Ils interagissent avec vous, vous semblez être une personne agréable, vous êtes différent de la plupart des gens, ils voient en vous quelque chose de différent de ce qu'ils voient chez ceux qui les entourent. C'est la lumière qui se reflète un peu. Mais en général, ils vaguent simplement à leurs occupations. Et puis il y a ceux qui aspirent la lumière, la vie, la lumière qui est en vous. Il y a des gens avec qui vous travaillez, des gens que vous croisez, des gens autour de vous qui absorbent toute votre lumière. Ce sont les mêmes dont les actes sont sombres. Ils étouffent la lumière. Allez au chapitre 1 de la deuxième épître de Jean. Deuxième épître de Jean, Chapitre 1. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 6. Verset 6. Et voici ce qu'est l'amour, que nous marchions selon ses commandements. C'est là le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, que vous marchiez en lui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-là est un séducteur et un antéchrist. Si vous reniez Christ, vous êtes un antéchrist. Vous êtes contre Christ. Veillez sur vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine du Christ a le Père et le Fils. Si nous obéissons à Dieu et si nous obéissons au Christ, ils sont un, donc nous sommes avec eux deux. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de ne pas marcher dans la lumière de Dieu, le Père et Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas bonjour. Car celui qui lui dit bonjour participe à ses mauvaises œuvres, ou, pourrait-on dire, à ses œuvres obscures. Mes frères, plus vous marchez dans le christianisme, plus vous devenez lumineux, ou devriez l'être. Plus nous devenons lumineux, plus nous nous distinguons. Plus nous nous démarquons, plus il y aura de gens qui voudront nous voir échouer. C'est dans la nature des choses. Ce sont les noirs, les ténèbres. Ils ne représentent pas tout le monde, ni même la majorité, mais ils sont là, et ce sont eux qui sont les plus dangereux pour vous et moi. Ce sont eux dont nous devons nous éloigner. Ce sont ceux dont nous devons nous méfier, car ils peuvent absorber la lumière. Elle ne rebondit pas sur eux. Elle ne les traverse pas. Elle est absorbée. Allons dans Romains. En fait, allons plutôt dans Proverbe 26, revenons à l'Ancien Testament. Proverbe 26, vers la fin du livre des Proverbes. C'est un proverbe plein de sagesse. Mais il explique ce dont nous parlons. Proverbe 26, verset 4. Il nous dit que le verset précédent dit quand il faut répondre à un insensé. Verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne sois toi-même comme lui. Ne te laisse pas entraîner par les gens ou avec les gens, même en discutant ou en expliquant ou quoi que ce soit d'autre qui t'entraîne là-dedans, car tu deviens comme eux. Ils t'enlèvent ta lumière. C'est une ligne fine sur laquelle nous marchons, frères. Nous devons être dans le monde. Nous devons être la ville située sur une colline. Nous devons être la bougie qui est sur le chandelier. Nous devons être l'exemple de ce que signifie être la lumière du monde. Mais nous devons être conscients, attentifs, éviter ceux qui nous privent de notre lumière. Cela peut prendre différentes formes. Si vous allez sur des sites haineux et que vous recherchez des informations négatives sur quelqu'un, sur les dissidents, sur tout ce qui resterait, vous allez dans un endroit où les gens veulent l'obscurité, et cela vous enlèvera votre lumière. Si vous fréquentez des gens qui s'enivrent, qui font la fête, ils vous enlèveront votre lumière et vous deviendrez comme eux. Les photons, la lumière se comporte différemment selon ce avec quoi nous entrons en contact. À l'inverse, autre point important, comme la lumière n'a pas de charge, elle n'est pas affectée par les champs qui l'entourent. C'est donc un peu les deux, d'accord? C'est ainsi que vous interagissez avec les choses. Mais comme la lumière n'a pas de charge, elle n'est pas affectée par les champs qui l'entourent. La lumière n'a pas de charge électrique, donc contrairement aux particules chargées, aux protons, aux neutrons, à tout ce à quoi vous pensez normalement, elle n'est pas poussée par les champs électriques ou magnétiques. Vous voyez donc du plasma dans un réacteur, et il est maintenu par des aimants, car ce sont des particules chargées. Elles sont donc affectées par ces aimants. Dans certains réacteurs à fusion, où le plasma est extrêmement chaud, plus chaud que le soleil, il est possible de le maintenir à distance des bords de l'appareil à l'aide d'aimants puissants, car ce sont des particules chargées. La gravité peut modifier la trajectoire de la lumière, car elle modifie l'espace-temps, ce qui est un changement indirect, mais les champs quotidiens ne peuvent pas saisir la lumière et modifier sa trajectoire. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Verset 1. Nous vous prions, frères, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans votre esprit, ni troubler, ni par des esprits, ni par des paroles, ni par des lettres qui sembleraient venir de nous, comme si le jour du Christ était déjà là. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser ébranler par ce qui se passe autour de nous. Nous ne devons pas nous laisser affecter par les champs d'énergie qui nous entourent. Nous sommes lumière. Nous suivons un chemin droit. Nous faisons les choses qui nous permettent de rester sur ce chemin. Le monde est en désordre. Les pays sont en désordre. Les êtres humains sont en désordre. Ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. Les problèmes de l'homme ont besoin de réponses spirituelles, et ils ne peuvent pas les résoudre, et nous ne pouvons pas laisser ces problèmes nous détourner de notre chemin. Nous ne pouvons pas nous impliquer dans la politique ou dans des associations qui nous détourneraient de notre chemin. Nous ne pouvons pas laisser cela changer ce que nous sommes, car dès que nous commençons à être affectés par ces forces extérieures, nous sommes moins légers, car en tant que lumière pure, cela ne nous affecterait pas. Si nous nous concentrons et disons, non, notre fondement est Christ, nous sommes construits sur ce roc, nous comprenons le rôle de Dieu, nous comprenons toutes les choses que nous faisons, les problèmes, les pressions, les tribulations, les disputes, les querelles, tout cela devient un bruit extérieur ridicule, et cela ne devrait pas nous affecter. Cela ne devrait pas changer la façon dont nous brillons. Quand cela commence à nous affecter, nous devons nous arrêter, réexaminer la situation et revenir à la réflexion suivante: non, je suis sur le droit chemin. Je suis lumière. Je vais en ligne droite. Je dois me recentrer et devenir plus semblable à Dieu, plus semblable au Christ, en vivant cette vie comme nous sommes censés le faire, car les champs extérieurs, les forces extérieures, ne devraient pas nous affecter. Point suivant. Un seul photon est invisible à nos yeux. Il pourrait rebondir partout, et la pièce resterait sombre. Elle semblerait sombre. Les ampoules qui se trouvent dans ces lampes ou ces boîtes au plafond ou tout autre endroit ont besoin d'une source d'énergie derrière elles. Elles ne produisent donc pas un photon, elles en produisent des millions et des millions de manière constante. Excusez-moi. Vous et moi ne sommes pas des sources de lumière, nous sommes des conduits de lumière. Nous ne sommes pas la source de lumière, nous sommes la lumière. Les lampes produisent de la lumière. Mais sans source d'énergie derrière ces ampoules, elles sont sombres. C'est pourquoi tous ceux qui, dans le monde, n'ont pas l'Esprit de Dieu sont décrits comme sombres. Ils n'ont pas de source d'énergie. Vous et moi, nous en avons une. Excusez-moi. Nous sommes plutôt comme. Vous pouvez penser à un câble à fibre optique. Si vous savez ce que c'est un câble en verre, très efficace car il transmet des signaux lumineux, ce qui permet d'obtenir un rebond de photons qui s'allument et s'éteignent, et un capteur de l'autre côté détecte cela, ce qui vous donne les 1 et les 0 qui passeraient par un câble de données. Passons à la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 6. Verset 6, c'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance. Mes frères, notre puissance est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui nous fait passer de l'état de bulbe sombre et inactif, si vous voulez, de conduit, de câble à fibres optiques, quelle que soit l'analogie que vous souhaitez utiliser, mais si vous pensez à une ampoule, ce qui nous fait passer de l'état d'ampoule sombre qui n'émet aucune lumière à celui d'ampoule allumée, c'est la source d'énergie, l'Esprit de Dieu qui se trouve derrière, l'Esprit de puissance, d'amour et de bon sens. N'ayez donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais participez aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu. Cet Esprit nous illumine. Il nous permet de briller. Il nous a transformés. C'est ce qui nous a rendus différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Allez au chapitre 3 de Matthieu, chapitre 3, verset 16, 3, 16, le baptême du Christ. Verset 16, en se tendant un peu au milieu du contexte ici, et Jésus, après avoir été baptisé, sortit aussitôt de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'Esprit de Dieu qui descend sur Christ, qui descend sur nous lorsque nous sommes baptisés, devient notre source de lumière ou devient la source. C'est presque mieux. Vous pouvez nous considérer comme. Nous ne sommes pas le soleil, nous sommes la lune. Nous reflétons la lumière d'une source qui passe à travers nous par l'Esprit de Dieu. Donc, vous et moi, nous sommes vraiment cela, nous sommes à cette période de l'année. Nous avons entendu M. Pâques prêcher sur la super lune. Lorsque cette lune est pleine, surtout lorsqu'elle est aussi proche, elle est brillante. Et si nous avons une nuit claire où nous pouvons la voir, oh, elle est brillante, mais nous ne sommes pas la source de la lumière. Nous ne sommes que le conduit de la lumière. Nous sommes l'ampoule. Nous sommes le câble à fibre optique. Nous sommes la lune. Quelle que soit l'analogie qui vous vient à l'esprit, la meilleure, restez-y fidèle. Réfléchissez-y. Si cela vous aide à devenir un meilleur réflecteur, un meilleur conduit, c'est celle que vous devez vous efforcer de conserver. Et nous devons être prudents car, encore une fois, si vous êtes un réflecteur, c'est pourquoi la lune est un excellent exemple. Lorsque vous regardez la lune, vous voyez des taches plus sombres, car certaines parties de la lune ne reflètent pas la lumière de la même manière. C'est pourquoi vous voyez l'homme dans la lune que vous avez vu tant de fois lorsque vous regardez une grande pleine lune. Ce sont des taches imparfaites. Lorsque le télescope James Webb a été envoyé dans l'espace, la pureté de ses réflecteurs était essentielle pour pouvoir renvoyer les particules de lumière et les refléter. Il devait être parfaitement brillant. Aucune imperfection n'était tolérée, car toute imperfection réduirait la quantité de lumière que le télescope serait capable de voir dans ce cas. Mes frères, toute imperfection en vous et moi réduit la quantité de lumière que nous pouvons réfléchir. Nous devons nous purifier afin de devenir de meilleurs réflecteurs. Nous devons obéir à Dieu, faire ce que nous devons faire, éviter ce que nous ne devons pas faire, empêcher le monde de nous tâcher et de nous rendre moins efficaces. C'est ainsi que nous devenons les meilleurs réflecteurs de lumière, les meilleurs outils que Dieu peut utiliser, car il est notre source d'énergie. Et notre capacité à émettre dépend de l'absence d'imperfection. Je me souviens, on ne voit plus cela aujourd'hui car la qualité s'est améliorée, mais autrefois, lorsque vous achetiez un écran d'ordinateur, il était acceptable, ce qui me semble être un concept erroné, qu'il y ait quelques pixels morts sur ces écrans. Et en général, on ne les remarquait pas jusqu'à ce qu'on les remarque, et ensuite, on ne pouvait plus les ignorer. Il y avait toujours ce pixel. On avait envie de jeter l'écran parce qu'on le voyait. On voyait l'imperfection parce que cette imperfection empêchait la lumière de l'écran de passer correctement, ou l'image n'était pas la même. Vous et moi sommes individuellement chacun de ces petits pixels. Collectivement, en tant qu'Église, nous sommes cet écran. N'assurons-nous qu'aucun d'entre nous ne soit un pixel brûlé. N'assurons-nous qu'aucun d'entre nous ne détourne l'attention de l'image que Dieu veut que nous reflétions, car dans nos vies individuelles, nous produisons cette lumière, mais en tant que collectif, en tant que congrégation, en tant qu'Église mondiale, en tant que peuple de Dieu, en tant que converti, nous créons une image et cette image doit refléter la Bible dans nos vies, dans notre conduite, surtout lorsque nous sommes à la fête ou que nous sommes réunis en grand groupe. Donc, individuellement et collectivement, nous devons veiller à ne pas laisser le monde nous repérer, comme le dit le verset, et devenir des lumières moins efficaces. Autre point important, la lumière peut être inoffensive, mais si elle est concentrée, elle devient totalement imparable. Considérez cela sous deux angles différents. Revenez à l'introduction, où nous parlions de la diffusion de l'atmosphère, de la lumière, de l'obscurité de la planète. La lumière peut donc être inoffensive. Si vous êtes assis dans cette pièce en ce moment, vous voyez la lumière des lustres. Elle est inoffensive, utile, mais elle ne brûle pas et ne fait pas mal. Mais si vous prenez cette lumière et que vous la concentrez en un point précis, et que ce point est plus étroit et plus concentré, vous obtenez un laser, vous pouvez brûler l'acier. Il existe aujourd'hui de grosses machines qui coupent des morceaux d'acier épais avec de la lumière. Concentrez la lumière à travers un laser, et l'intensité peut être si puissante qu'elle peut couper l'acier. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, mais innocents comme les colombes. Lorsque nous sommes concentrés, mes frères, spirituellement, une fois que nous avons éliminé nos distractions, nous émettons une lumière puissante qui nous empêche d'être distraits, qui nous empêche de nous laisser entraîner par les voies du monde. Si notre lumière est concentrée, alors tout obstacle devant nous peut être surmonté. Nous devenons comme ce laser, un laser spirituel qui peut couper tout ce qui se trouve sur notre chemin et qui tente de nous empêcher d'accéder au royaume de Dieu. Mais pour que notre lumière soit aussi puissante, nous devons éliminer les distractions qui la diffusent. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 17. Matthieu 6, 17. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin que tu ne paraisses pas aux hommes comme jeûnant. Tu ne dois pas te promener en boude et en ayant l'air triste. Mais à Dieu, ton Père, qui est dans le secret, et tout Père voit dans le secret, et il te récompensera ouvertement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne peuvent dérober. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est le verset que nous lisons souvent pour les offrandes ou en rapport avec la concentration sur des aspects communs et autres. Verset 22, la lumière du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, concentré comme un laser, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, concentré sur les ténèbres, diffus, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes sont ces ténèbres? Mes frères, nos yeux, ce que nous voyons, ce que nous permettons à nos yeux de voir, j'ai entendu cela tant de fois, quand les gens commencent à s'éloigner, ou qu'ils s'éloignaient du chemin de Dieu ou de la vérité, vous voyez la lumière dans leurs yeux s'éteindre. Leurs yeux s'assombrissent parce que l'Esprit de Dieu, tel qu'il est conçu, vous voyez la lumière dans les yeux de quelqu'un, et vous voyez aussi quand elle s'éteint. Si nous pouvons nous concentrer, nous gardons nos yeux fixés sur une seule chose. Oh, ce qui sort de nous, la lumière est si concentrée. Notre corps tout entier est lumière. Cela nous rend unique. Mes frères, cela fait de nous des sources de lumière puissantes et imparables. Bon, encore une chose avant de conclure. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Vous n'entendrez jamais personne dire, « Vous savez, j'ai vraiment peur de la lumière. » Non, ils ont peur de l'obscurité. Ou, « Je marchais dans la lumière et j'ai heurté quelque chose. » Non, je marchais dans l'obscurité. Je tâtonne dans la lumière. Non, je tâtonne dans l'obscurité. C'est le contraire. Allez au psaume 27. Psaume 27, verset 1. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants, mes ennemis et mes adversaires, s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ils trébuchent et tombent, car l'Éternel est ma force et ma lumière. L'Esprit de Dieu en nous. Allons au chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens. La lumière dissipe les ténèbres. Peu importe l'obscurité d'un espace, il suffit d'allumer une lumière. Cela peut être la lumière de votre montre, et cela change la dynamique de la pièce. Vous allez au chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens. Je devrais faire de même. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 10. Comme la vérité du Christ est en moi, nul ne m'empêchera de me glorifier dans les régions d'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Pourquoi, demandez-vous, parce que je ne vous aime pas, demandez-vous encore, Dieu le sait. Mais ce que je le fais afin de couper l'occasion à ceux qui cherchent une occasion, afin que, dans leur gloire, ils soient trouvés comme nous. Parlant d'eux, vous verrez ce que cela signifie. Verset 13. Car ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se transforment en apôtres de Christ. Comment font-ils cela? Ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ces ministres se transforment aussi en ministres de justice, dont la fin est selon leurs œuvres. Cela signifie que les vrais anges sont des anges de lumière. Les lumières sont individuelles. Encore une fois, ce pixel qui brûle se détache, mais les lumières se détachent dans l'obscurité. Mes frères, la pièce, le monde, ce dans quoi nous vivons est sombre. Vous vous démarquerez. Vous devez le faire. Ce n'est pas seulement un effet secondaire, c'est votre travail. Notre travail consiste à nous démarquer. Notre travail consiste à être des lumières. Notre travail consiste à montrer ce que signifie vivre le christianisme. Et cela signifie que vous allez éliminer les ténèbres. Vous allez briller dans l'obscurité. Et les gens n'aiment pas l'obscurité ou que leurs actions dans l'obscurité soient révélées. On pourrait ajouter que cela ne doit pas nécessairement être de grands péchés obscurs, mais simplement de mauvaises attitudes. Les bons exemples montrent les mauvaises attitudes. Cela rend les gens coupables, ce qui les amène à ne pas vous aimer. Mais vous disposez d'une source d'énergie infinie. Encore une fois, c'est pourquoi il est important de comprendre que lorsque notre regard est concentré, nous sommes invincibles. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Et la lumière continue à faire cela encore et encore et encore. Il n'y a aucun cas où les ténèbres peuvent éteindre la lumière. Ce n'est pas possible. Vous pouvez aller n'importe où, peu importe à quel point une pièce est noire et sombre, vous pouvez obtenir la peinture la plus noire qui soit qui absorbera tous ces photons, mais là où se trouve la lumière, elle l'emportera toujours sur les ténèbres, à chaque fois. Nous pouvons être plus efficaces grâce à tout ce que nous avons vu, mais vous et moi sommes des lumières. Et mes frères, la seule façon dont nous pouvons permettre aux ténèbres d'éteindre la lumière, la seule façon, c'est si vous et moi permettons qu'elle soit éteinte. Dernier passage, passons au chapitre 12 de Jean. La seule façon de perdre notre capacité à illuminer n'importe quel environnement, n'importe quel espace, c'est d'éteindre la source d'énergie. Jean chapitre 12, verset 30. Jésus répondit et dit, Jean 12, 30, « Cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. Le peuple lui répondit, « Nous avons entendu dans la loi que Christ demeure éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme sera élevé ? Qui est le Fils de l'homme ?» Jésus leur dit, « Encore un peu de temps, et la lumière sera avec vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha d'eux. Bien qu'il eût fait devant eux de nombreux miracles, ils ne croyaient pas en lui. Mes frères, si vous vous détournez de Dieu, si vous vous détournez de son Église, si vous vous détournez de son gouvernement, de sa vérité, de sa Bible, qui sont tous liés, vous éteignez votre lumière. Vous éteignez votre lumière. Vous sombrez dans les ténèbres. Et si vous aviez la lumière et que vous sombrez dans les ténèbres, vous perdez complètement l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez plus être éclairé. C'est fini. Vous êtes fini. C'est terminé. Persévérez. Restez connectés à cette source de lumière. Veillez à ne jamais laisser la source de puissance de Dieu s'affaiblir en vous et en moi. Souvenez-vous de tout ce que nous avons appris, discuté et vu aujourd'hui. Brillez comme des lumières. Soyez ces lumières. Devenez plus semblables à Dieu. Soyez une lumière, car, mes frères, nous ne faisons pas que briller comme des lumières. Vous et moi devons être des lumières.